OK, on va commencer notre 51e leçon, la providence de Dieu, la deuxième partie. On avait mentionné lors de notre dernier enseignement qu'on était pour avoir une série de 5 sur la providence de Dieu. Alors, on avait regardé un petit peu la définition mercredi dernier de ce que c'est la providence. On va la redire. C'est l'œuvre externe par laquelle toutes les créatures de Dieu sont préservées, gouvernées, guidées et dirigées. Donc, ce qui est à remarquer, c'est vraiment l'œuvre externe. Ça distingue l'œuvre externe de l'œuvre interne, parce que l'œuvre interne, c'est vraiment le plan de Dieu, ses décrets, et la providence, c'est l'exécution, autrement dit, le déroulement de ce que Dieu avait décidé toute éternité. Alors, on avait regardé aussi que la réalité de la providence, John Gill avait donné 10 preuves de sa réalité. On va juste les renommer rapidement. La lumière de la nature, l'être de Dieu, la création du monde, les attributs de Dieu, l'adoration de Dieu, l'ordre des choses, l'absence de confusion, les bénédictions de sa bonté, ses jugements et la crainte de punition et les espoirs de récompense des hommes. Donc, on avait tout regardé ça en détail mercredi dernier. Dans la leçon précédente, vous avez tous les détails là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va regarder notre premier point. certaines distinctions qu'il y a dans les sortes de providence ou les catégories de providence. Alors, pour mieux confirmer la providence, il est nécessaire de procéder à des distinctions pour mieux en saisir les différentes facettes. La première chose qu'on va faire, la première distinction qu'on va établir, c'est que il y a une différence entre la providence immédiate et la providence médiate. La providence médiate, c'est que Dieu agit sans les moyens. Et médiate, c'est avec les moyens. Alors, on va regarder différents exemples dans les Écritures avec des versets. Alors, la différence immédiate, c'est pas une question de temps, c'est plus une question d'agir avec moyens ou agir sans moyens. Donc, la providence immédiate, c'est celle qui est exercée par Dieu sans l'aide d'aucun moyen, instrument ou cause seconde. Par exemple, Dieu donne la victoire au peuple d'Israël sans que celui-ci ait n'ait à mener de combat. Par exemple, la traversée de la mer Rouge. Ils sont arrivés devant la mer Rouge, puis là, c'est pas eux qui ont fait quelque chose. C'est Dieu qui a... Il n'y a pas de moyen. C'est Dieu qui a travaillé lui-même pour ouvrir la mer, puis s'organiser pour qu'il puisse traverser à sec. Il y a aussi, par exemple, la chute des murs de Jéricho. C'est pas parce qu'ils ont marché cette fois autour de la ville que les murs se sont écroulés. Les murs se sont écroulés par la puissance de Dieu. C'est Dieu que simplement, il avait dit ça dans un but d'obéissance, mais c'est pas la marche comme telle qui a fait que les murs se sont écroulés. Il y avait aussi la traversée du Jourdain. Quand il a voulu leur faire traverser le Jourdain, on sait que c'était le Jourdain était à l'époque où c'était les crues du Jourdain, on appelle. Donc, c'est comme ici, on pourrait dire l'équivalent d'ici au printemps, lorsque les rivières sont extrêmement hautes. Alors, il avait fait en sorte que la rivière s'était arrêtée. Il y avait comme, l'eau devait s'être répandue sur les côtés. Et il avait pu traverser à pied la traversée du Jourdain. Ou, autre exemple, l'arrêt momentané du soleil pour le combat de Josué. On sait que Josué avait demandé éventuellement à Dieu, il était en train de combattre les ennemis d'Israël, et Dieu avait permis que le soleil continue à briller pour une journée. Normalement, à 7-8 heures le soir, la noirceur arrive, mais pour ce combat-là, l'Éternel avait arrêté l'ordre de l'univers, il avait permis que le soleil reste 24 heures de plus. Et j'avais déjà lu quelque part que dans les calculs que les astronomes font, ce fameux 24 heures-là, quelque part, ils peuvent le retrouver dans leurs affaires. C'est bizarre. Ben, c'est pas bizarre, mais c'est comme une belle confirmation de la vérité de la Bible. Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, s'il tient toute chose par la parole puissante, c'est pas par un moyen quelconque, c'est juste sa parole qui fait en sorte que... Alors, c'est immédiat, c'est la providence immédiate. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Daniel 3, versets 17 et 18. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Alors, il savait que si il allait dans le feu et qu'il ne brûlait pas, ou bien non, Daniel, quand il était allé pour la fosse au lion, c'était pas par un moyen humain quelconque, c'était Dieu lui-même qui intervenait. Donc, c'est une providence immédiate, sans moyen visible. Parce que Daniel, quand il était dans la fosse au lion, il ne voyait pas nécessairement le Seigneur qui tenait la bouche des lions fermés. Il ne la voyait pas, mais ça ne veut pas dire qu'à cause qu'il ne la voyait pas, qu'il n'y avait pas quelqu'un qui agissait. Et si on fait la différence avec la providence immédiate, c'est celle que Dieu se sert d'un moyen. Alors, celle exercée par Dieu en utilisant des moyens. Par exemple, Dieu donne la victoire à une armée de 300 hommes qui combattent avec une armée beaucoup plus puissante et beaucoup plus nombreuse. Alors, c'est sûr qu'on prend l'exemple de Gédéon. Il était 300, je ne me souviens plus du nombre des ennemis, mais c'était beaucoup plus nombreux puis beaucoup plus puissant. Normalement, il aurait dû se faire écraser. Mais Dieu dit, vas-y, puis je vais te donner la victoire. Alors, il se sert d'un moyen, mais il a voulu que l'armée de Gédéon soit rétrécie à un nombre tel qu'il ne puisse pas dire après, c'est nous qui avons eu la victoire. Il sentait très bien que Dieu était intervenu dans le combat. Il y avait un moyen, mais Dieu était intervenu avec un moyen. 1 Samuel, chapitre 14, verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » L'Éternel peut aussi bien donner une victoire sur une armée de 200 000, vous pouvez être juste 10, puis il peut vous donner la victoire quand même. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 11. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Ésaïe, chapitre 38, verset 21. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Alors, l'Éternel se sert de figues aujourd'hui. On pourrait-tu dire, si on a un ulcère et on met des figues dessus, c'est une recette médicale que le Seigneur donne? Fort peu probable, il se sert d'un moyen pour arriver à une fin. Aussi, une autre distinction. Donc, on a fait la distinction entre la providence immédiate de la providence médiate. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la providence ordinaire. Excusez-moi. Et la providence extraordinaire. La providence ordinaire, c'est celle qui gouverne les lois du ciel et de la nature. Par exemple, les lois de la gravité, les lois du feu, les lois de l'eau en font partie. Il y a une certaine ordre dans l'univers, il y a des lois à travers de ça. Si je prends mon verre puis je le lâche, la gravité va faire en sorte qu'il va tomber à terre, c'est une loi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la providence ordinaire. Le Seigneur a donné des lois. Si je me mets la main dans le feu, je vais me brûler. Puis si je prends de l'eau, je vais me mouiller. Alors toutes ces lois-là, le Seigneur les a données. Ça fait partie de la providence ordinaire. Psaume 148, versets 6 à 12. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Voyez-vous, dans le verset 6, il dit « Il a donné des lois sur différentes affaires ». Et ça, ça fait partie de ce qu'on peut appeler sa providence ordinaire. Maintenant, si on la distingue, excusez-moi, de la providence extraordinaire, ce sont les miracles opérés par Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, l'eau qui sort du rocher. Quand le Seigneur avait dit à Moïse, « Frappe le rocher, il en sortira de l'eau. » Alors, à ce moment-là, ça fait partie de la providence extraordinaire. C'est Dieu qui intervient d'une certaine façon. L'eau qui sort du rocher ou la manne qui tombe du ciel. Alors, c'est une providence, une intervention de Dieu, mais c'est extraordinaire. Il ne tombera pas de la manne aujourd'hui, on s'en va dans le désert, il ne pue. Il n'y avait à cette époque-là. Élie mourit par des corbeaux. Dieu avait dit à Élie, « Va au torrent et je commanderai aux corbeaux de t'amener de la viande. » Semble-t-il, quand tu lis les commentaires sur ces passages-là, il n'y a rien de plus non naturel à un corbeau que de partager de la viande. Pour lui, quand il y a de la viande, il n'est pas question que quelqu'un vienne toucher à ça, la bagarre va pogner, comme on dit. Et Dieu avait permis qu'un oiseau qui normalement ne partagerait jamais ça avec qui que ce soit, là, l'oiseau venait puis il donnait la viande à Élie. Alors, c'est vraiment une providence extraordinaire. Dieu fait faire des choses qui ne sont pas naturelles à des animaux ou à des humains. Un roi, chapitre 17, versets 4 à 6 et versets 12 à 16. Alors, on va voir le verset où, justement, Élie, on a le passage d'Élie qui nourrit par les corbeaux. Le Seigneur dit dans 1 Roi 17, versets 4 à 6, « Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. » C'est pas naturel, c'est l'intervention, c'est la providence extraordinaire de Dieu. Et dans le verset 12 à 16, « Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit. » Alors ça, c'est le passage où un petit peu plus loin, la femme, Élie demande à la femme de lui donner quelque chose à manger, puis il restait juste un petit peu de farine puis un petit peu d'eau. Alors elle dit, « L'Éternel ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. » Et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et j'ai préparé cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot, ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » On se rappelle dans le contexte, c'était vraiment dans le contexte d'une famine. « Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon que l'Éternel avait prononcé par Élie. » Pas vraiment normal. T'as juste un petit peu d'huile, t'as juste un petit peu de farine. Tu l'utilises, puis oups, il y en a encore dans le vase. Tu verses ton huile, puis oups, il y en a encore dans le vase. C'est la providence extraordinaire. 1 Roi, chapitre 19, versets 5 à 8. Alors ici, dans le contexte, c'est Élie qui était fatigué, qui avait eu peur de se faire zigouillé par la reine qui l'avait menacé, et il s'était sauvé. Et là, il était vraiment découragé. On sait qu'il s'était couché sous un genêt. Ça dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, écoutez bien, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il fallait que le Seigneur lui ait donné quelque chose de nourrissant. Parce que pendant ça lui a pris 40 jours et 40 nuits de se rendre là, et avec le, on pourrait dire, les deux repas que l'ange lui avait préparés, il avait eu suffisamment d'énergie. Alors, si on voit que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la providence de Dieu. Autre distinction à faire, c'est celle entre ce qu'on appelle la providence universelle et la providence singulière. La providence universelle, c'est celle par laquelle il soutient et préserve toute chose. Dans Matthieu, un exemple, Matthieu 10, verset 29, « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Imaginez-vous, le Seigneur, il pourrait prendre n'importe qui, il pourrait dire qu'on met tes cheveux sur la tête, puis il n'y a pas un être humain qui est capable de le dire. Moi, dans mon cas, ce ne sera pas long à compter. Ce ne sera pas long à compter. La providence singulière, maintenant, c'est celle par laquelle il contrôle absolument les actions des individus et toutes les créatures. Ça, c'est assez particulier. Ésaïe 40, verset 26. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. » Psaume 50, versets 10 et 11. Car tous les animaux des forêts sont à moi. C'est le Seigneur dans le contexte qui parle. Tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Alors, imaginez-vous que tout ce qui se meut dans les champs, si vous vous mettez à énumérer tout ce qui se meut dans les champs, il y a énormément, il y a tous les insectes, il y a tous les animaux de toutes sortes. Et le Seigneur a dit, tout ça, ça m'appartient, puis j'ai le contrôle parfait là-dessus. Psaume 33, verset 13 à 15. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. On est rendu, je ne sais pas, 7 ou 8 milliards sur la terre. Le Seigneur il dit qu'il voit exactement tout ce qui se passe sur tous les individus de toute la terre simultanément. Et non seulement les actions, mais aussi ce qu'on pense. Et il peut dire les paroles qu'on va dire avant même qu'on les prononce. Très spécial aussi. Donc, autre distinction qu'on va faire, c'est entre la providence qu'on appelle commune, on l'a distinguée de la providence spéciale. La providence commune, c'est celle qui s'exerce sur l'univers entier et sur toutes ses créatures, à toute l'humanité d'une manière commune et ordinaire. Comme ça se dit dans le psaume 145, verset 9, « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » En quelque part, il y a des gens qui sont méchants. L'Éternel dit, il y a comme une providence qui est commune. L'Éternel est bon, fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc, c'est vraiment la providence que l'Éternel exerce d'une façon commune. Donc, tous les êtres humains en profitent. Et la providence spéciale, c'est celle qui s'exerce sur le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était celle qui s'exerçait sur Israël et sur les saints de l'Ancien Testament et sur les saints de l'Église de Jésus-Christ. 1 Timothée 4, verset 10. Dans le contexte d'1 Timothée 4, verset 10, c'est un verset qui est souvent utilisé par les Arméniens pour dire que Dieu est sauveur de tous les hommes. Mais quand vous allez regarder le mot grec dans l'original, le mot « sauveur » est plus utilisé dans le sens de « préservateur ». Alors, si vous prenez des versets et que vous les lisez rapidement sans aller voir les contextes, sans aller voir les mots grecs des fois, ça peut arriver que vous prenez un texte puis vous lui faites dire quelque chose que le texte ne dit pas en réalité. Comme dans 1 Timothée 4, verset 10, ça dit « Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. » Et vous, ils se servent de ça, les Arméniens vont dire « Ah, regarde, ça dit 1 Timothée 4, 10, sauveur de tous les hommes. » Mais si tu le prends dans le sens de préservateur, ça veut dire qu'il maintient à la vie simultanément tous les êtres vivants qui sont sur la terre, ça n'a pas le même sens que sauveur dans le sens... Parce que regardez, ça dit principalement des croyants. S'il parlerait de tous les hommes, pourquoi il serait le sauveur de tout le monde, puis après ça, principalement des croyants? C'est vraiment, quand vous regardez dans les commentaires, c'est vraiment le préservateur dans ce... Alors ici, c'est la providence spéciale. La providence, maintenant, la différence entre la providence, c'est ce qu'on appelle réelle et morale. Il prend toute la peine, John Gill, de faire ces différences-là, parce que, dépendamment des passages qu'on peut lire dans les Écritures, on s'aperçoit de différentes façons dont l'Éternel intervient, soit avec des moyens, soit sans moyens, soit dans le monde moral ou dans le monde ce qu'on appelle réel. Ici, la providence réelle, c'est l'essence physique des choses matérielles, leur préservation et leur sustentation. Autrement dit, tout ce qui existe est maintenu à l'existence par l'Éternel lui-même, que ce soit les choses matérielles, ce qu'on appelle la providence réelle. Toutes les choses qui ont une essence physique sont maintenues, sont préservées et sont sustentées, soutenues par l'Éternel lui-même. Et ce qu'on appelle la différence qu'on veut faire entre le réel et le moral, c'est que quand on parle de notre volonté, c'est pas nécessairement du matériel. Et l'Éternel est capable aussi d'intervenir sur notre volonté qui n'est pas quelque chose de matériel. Alors, c'est quand même une distinction qui est importante à faire entre la façon dont l'Éternel exerce sa providence sur le monde, qu'on pourrait dire réel, donc tout ce qui a une essence physique, et la distinction avec la providence morale. La providence morale, c'est le gouvernement et le contrôle absolu de Dieu sur tous les anges et sur tous les hommes. Aussi, Dieu a donné des lois, des préceptes, des prohibitions, des sanctions, des promesses, des menaces, des instructions, des avertissements et des rétributions, le code moral. Autrement dit, tout ce que l'Éternel a permis de donner des lois aux hommes, ça fait partie de sa providence morale. Ce n'est pas des choses qui sont nécessairement physiques, quand il nous dit d'agir de telle façon. Quand on va essayer de définir, c'est-à-dire il nous dit d'aimer. C'est pas facile à définir, l'amour. Ceux qui s'essayent, à un moment donné, c'est pas facile, c'est intangible. Et l'Éternel est capable d'agir sur nos volontés, sur nos esprits. Quand ça dit, dans le livre des Proverbes, il dit, il dirige l'esprit des rois comme un courant d'eau. Si je prends, j'ouvre un robinet, puis je mets ma main comme ça, je dirige l'eau qui va sortir à l'endroit où je veux. L'Éternel dit qu'il fait la même chose avec nos esprits. Il prend l'exemple d'un roi. S'il est capable de changer l'esprit d'un roi comme il le veut, comme nous, on le fait avec de l'eau qui sort d'un robinet. Alors, si il choisit l'exemple d'un roi, c'est pour nous montrer, si je suis capable de le faire avec un roi. Je suis capable de le faire avec toi aussi. Alors, c'est l'Éternel contrôle les esprits des hommes. Il peut permettre que dans une circonstance que les gens aient envie de te tuer, puis il peut permettre de restreindre le mal chez les personnes qui voudraient te tuer. Et il peut aussi les laisser faire. Ça dépend, ça fait partie de son plan, on ne sait pas pourquoi qu'une fois il intervient, puis une fois il n'intervient pas. C'est intéressant de voir l'exemple des trois qui ont été dans Daniel. Il dit, notre Dieu, en voulant dire, peut intervenir, et s'il n'intervient pas, c'est pas qu'ils ont plus foi à l'Éternel, là. Il dit, il peut intervenir, mais s'il n'intervient pas, sache au roi qu'on n'embarquera pas dans ton affaire quand même. En voulant dire, si Dieu n'intervient pas dans ça, on n'adorera pas quand même. Alors, c'est Dieu qui décide s'il intervient ou s'il n'intervient pas. Donc, la providence morale, ça, on peut la distinguer de la providence réelle, parce qu'il y en a une qui est vraiment physique, puis l'autre, c'est vraiment une intervention au niveau de l'esprit, au niveau de l'intangible. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de ce qu'on a vu ce matin? J'avais vu. Le contrôle de Dieu sur toute chose est absolu dans son étendue. Sur le ciel, sur l'univers créé, les planètes, les étoiles et tout ce qui existe. Sur la terre, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Il contrôle toutes choses à tous les niveaux. Parce que disons qu'on prend, on veut qu'on parle du règne minéral. On prend une roche, si on la regarde à première vue avec nos yeux, il a l'air à se passer rien là-dedans. Mais si on prend un microscope électronique avec des forces extraordinaires, c'est fait avec des atomes. Et là, ça bouge là-dedans, une affaire extraordinaire. Même aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont développé en science, ils n'ont pas encore été dans les plus profonds secrets de la matière. Tout est matière. Si on a un verre devant nous autres là-dedans, ça n'a pas l'air bougeux, ça, hein? Mais ça bouge extraordinairement avec les yeux de Dieu. Et quand Dieu dit contrôle toute chose, contrôle ce que nous, on voit comme étant des immenses grosses planètes, mais il y a des niveaux à ça. C'est que tu peux la planète, tu pourrais la regarder avec les milliards et les centaines de milliards et les milliards de milliards d'atomes qui composent ce que nous apparaît comme étant énorme. Mais il y a l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et l'Éternel contrôle tout ça en même temps. C'est un mathématicien assez extraordinaire. Plus qu'extraordinaire. Infiniment extraordinaire. Donc, sur la terre, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, sur tous les hommes élus ou inconvertis. Le Seigneur peut contrôler l'esprit d'un homme, il contrôler comme il veut, soit restreindre, soit permettre. Voyez-vous, dans Romains, il dit que il laisse parfois les hommes aller à leur mal. Des fois, c'est un jugement. L'Éternel peut restreindre le mal dans la vie de quelqu'un, dire il te restreint de faire une chose, comme dans Genèse, quand il dit « Je n'ai pas permis que tu la touchasses. » Il dit ça à un roi qui voulait aller avec la femme d'Abraham. Il dit « Je n'ai pas permis que tu la touchasses. » Donc, c'est une influence qui restreignait le mal. Mais, dans Romains, il dit « Je les ai laissés à leur sens réprouvé. » Alors, des fois, l'Éternel, il laisse aller, il intervient plus dans la restriction du mal dans la vie de la personne. Et là, la vie de la personne, elle se laisse aller à sa nature pécheresse qui n'a pas de limite. Le Seigneur nous dit « Qui peut le connaître? » Le cœur humain est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Même nous, on ne peut pas le connaître. À quel point on est pourri. Alors, si le Seigneur prend quelqu'un puis il enlève toute force restreignante sur sa vie morale, ça va piquer du nez puis ça va piquer pas à peu près. Alors, sur tous les hommes élus ou inconvertis, et sur tous les anges bons ou déchus. L'Éternel peut faire la même chose avec le malin. Si l'Éternel permet au malin d'intervenir dans la vie de quelqu'un, il faut remarquer dans Job, quand le Seigneur a dit, « Fais ceci, mais ne touche pas à son corps. » Si le malin aurait descendu sur la terre et aurait dit, « On va y voir si je vais y toucher à son corps. » Il n'aura pas été capable. Le Seigneur n'aura pas permis qu'il touche à son corps. Il ne va jusque où le Seigneur lui permet d'aller. Deuxième chose, donc, le contrôle de Dieu sur toute chose est absolu dans son étendue. On a juste à penser à quelque chose qui existe et il le contrôle de façon absolue. Deuxième chose, le contrôle de Dieu est absolu dans sa profondeur. À la fois sur le tangible, c'est tangible, mais ce qui se passe dans ma tête, ça, c'est intangible. Il contrôle à la fois le tangible et l'intangible. Donc, le tangible, c'est le monde matériel, le monde visible, et l'intangible, c'est les pensées, la volonté, les choses qui sont à l'intérieur, notre âme. Il est capable de contrôler aussi ça, même sur les animaux. Il peut y avoir un chien féroce qui va foncer sur toi, puis si l'Éternel fait... Non, je ne veux pas que tu le mordes, il ne mordra pas. Et si l'Éternel le laisse aller, ben il va te mordre. Pas plus compliqué que ça. Troisième point, le contrôle de Dieu est absolu dans sa qualité. Tout est gracieux, sage et bon. Tout a un but et une fin. L'Éternel a fait toute chose pour un but, même les méchants pour le jour. Sa bonté est facilement perceptible et manifeste, le Seigneur nous dit dans Romains, que la bonté de Dieu, sa puissance est visible à l'œil nu. Et sa grâce est merveilleuse, dans ce sens qu'elle s'exerce, il y a la grâce qu'on appelle commune, qui s'exerce envers tous les hommes, et il y a la grâce particulière, celle qui s'adresse aux élus, qui est vraiment encore plus extraordinaire. Donc, je termine en disant, quel Shaddai, donc le nom de Dieu qui veut dire qu'il est le tout suffisant, soit loué, béni et adoré éternellement.